Je regarde toujours avec un certain amusement ce qui se passe quand quelqu'un vient suivre une thérapie dans ma maison. Je suis installée dans un endroit magnifique qui surplombe la mer et cet environnement tend à mettre les nouveaux arrivants dans un état positif. Je les observe de ma fenêtre, ils garent leur voiture devant la porte, descendent et regardent autour d'eux, ravis, vivifiés par ce qu'ils voient avant de sonner.
Puis ils montent et nous bavardons un moment, une conversation agréable entre individus positifs. Et quand je leur demande ensuite...
Mais qu'est-ce qui vous amène ici ?
Leurs épaules se voûtent, leurs muscles faciaux se relâchent, ils respirent moins profondément et prennent une voix misérable pour me raconter leur malheur. Ils ont décidé de se mettre dans leur état douloureux.
Pour venir à bout de ce schéma, le plus simple est de montrer comment on peut le briser. Je prends donc généralement un ton très cassant, presque comme si j'étais en colère et dis
« Attendez un moment, nous n'avons pas encore commencé. »
« Excusez-moi. »
répondent-ils immédiatement et ils se redressent, reprennent une respiration, une posture, des expressions normales. De nouveau, ils se sentent bien. Le message est passé. Ils savent déjà comment se mettre dans un état positif. Ils savent aussi comment choisir un état négatif. Ils possèdent tous les outils qui leur permettent de transformer leur physiologie, leurs représentations internes et l'état dans lequel ils sont, ce qui leur permet de changer dans l'instant même de comportement.
L'effet de surprise constitue l'une des meilleures façons de briser un schéma, de sortir quelqu'un d'une situation bloquée. Les gens s'enferment dans un schéma donné parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Ils broient du noir et se dépriment, car ils croient qu'alors on s'occupera d'eux, qu'on leur demandera ce qui ne va pas. C'est une façon d'attirer l'attention des autres. Ils utilisent leurs ressources le mieux qu'ils peuvent pour changer l'état dans lequel ils se trouvent.
Comment réagir devant ce genre d'attitude ? On peut faire
ce que l'autre attend que l'on fasse.
S'asseoir avec lui.
Et se lancer dans une longue conversation amicale et triste.
Cela lui fera peut-être du bien sur le moment, mais son schéma dépressif ne s'en trouvera que renforcé. Il saura que s'il a le cafard, il bénéficiera de toute l'attention qu'il demande.
Que va-t-il se passer maintenant si vous agissez autrement ?
Si vous commencez à plaisanter, si vous l'ignorez ou si vous vous mettez à hurler ?
Il sera troublé par votre comportement et l'effet de surprise ainsi créé lui permettra de percevoir son expérience à travers un nouveau schéma.
Nous avons tous à certains moments besoin d'un ami à qui parler. Il y a des douleurs que seul peut apaiser une oreille amicale. Mais je parle ici de schémas et de situations bloquées, de comportements répétitifs et destructifs qui s'auto-perpétuent. En les renforçant, vous faites plus de mal que de bien. Ce qu'il faut, c'est montrer aux gens qu'ils peuvent briser ces schémas et adopter un nouveau comportement. Lorsqu'on croit être au bout du rouleau et qu'on attend de l'extérieur qu'une nouvelle impulsion, on s'immobilise. Tandis que si l'on se dit que l'on peut choisir un autre schéma et prendre la situation en main, on entre alors en action.
Notre culture, malheureusement, ne nous pousse pas souvent en ce sens. Elle tend à nous prouver que nous ne contrôlons ni nos comportements, ni nos états, ni nos émotions. Que nous sommes dépendants de tout, de nos traumatismes infantiles comme de nos dérèglements hormonaux. Elle nous empêche de prendre conscience de ce que les schémas existants peuvent être brisés et transformés, et ce, en un instant.
Les thérapeutes Richard Bandler et John Grinder s'étaient gagné la réputation d'être passés maîtres dans l'art de briser les schémas existants. Bandler raconte comment il lui est arrivé un jour d'avoir à soigner dans une institution psychiatrique un homme qui se prenait pour le Christ, non pas sur le plan métaphorique ou intellectuel, mais en chair et en os. Lorsque Bandler lui demanda
« Êtes-vous Jésus ?»
Il répondit «
Oui, mon fils. »
Bandler sortit de la pièce en disant qu'il allait revenir dans un instant. Le malade l'attendit troublé. Quelques minutes plus tard, Bandler revint, un mètre à la main. Il demanda à l'homme d'ouvrir les bras et le mesura d'une main à l'autre et des pieds à la tête. Puis, il ressortit. L'homme qui se prenait pour le Christ commença à s'inquiéter. Au bout d'un moment, Bandler apparut de nouveau, apportant cette fois avec lui
un marteau, de gros clous et des planches qu'il installa en croix.
« Que faites-vous ? »
demanda l'homme. Bandelaire enfonça le premier clou sans répondre et demanda à son tour.
« Êtes-vous Jésus ? » ?»«
Oui, mon fils. »
répéta l'homme.
« Alors, vous savez pourquoi je suis ici ? »
déclara Bandelaire. L'homme se rappela alors qui il était en réalité. Ce qu'il prétendait avant ne lui semblait plus tellement une bonne idée.
« Je ne suis pas Jésus, non, je ne suis pas Jésus »
cria-t-il. « Affaire classée. »
Une campagne anti-tabac lancée il y a quelques années nous donne l'exemple d'une façon plus positive encore de briser un schéma. Elle proposait la stratégie suivante.
« Essayez de remplacer par un baiser chaque cigarette que veut allumer quelqu'un que vous aimez. » Cela interrompt tout d'abord un geste devenu automatique. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle expérience ainsi créée jette un doute sur la valeur de l'ancienne.
On peut également avoir besoin de briser des schémas dans le monde du travail. C'est ce que fit un jour un directeur d'usine qui voulait voir changer la façon dont ses ouvriers travaillaient. Quand il prit l'affaire en main, il leur demanda de construire un modèle qui lui était destiné. Mais lorsque cela fut fait, il en essaya un autre, destiné aux consommateurs courants. Quand il vit qu'il ne pouvait rien en tirer, il se mit dans une rage noire et exigea que tous les produits de l'usine soient fabriqués comme si c'était lui et lui seul qui devait s'en servir. Il ajouta que désormais, il pourrait passer à tout moment dans les ateliers pour vérifier la qualité d'un modèle ou d'un autre. La nouvelle de ce qui venait de se passer ne mit pas longtemps à se répandre dans l'usine, brisant le schéma qu'avaient les ouvriers de leur travail. Chacun repensa son activité sous un jour nouveau. En maître de la communication, leur directeur avait permis à ses ouvriers de réfléchir à ce qu'ils faisaient, et ce, sans qu'ils lui en veuillent, car c'est à leur fierté qu'il avait fait appel.
Briser les schémas, créer un effet de surprise, se révèle aussi très utile dans le domaine de la politique. C'est ce qu'a démontré récemment Kevin Reilly, un député de la Louisiane qui chercha lors de la dernière session législative à obtenir de nouveaux crédits pour les universités et les écoles supérieures de cet État. Mais tous ses efforts restèrent vains. Un jour qu'il sortait du Capitole, un journaliste lui demanda ce qu'il pensait de la situation. Il se lança dans une longue tirade déclarant que la Louisiane n'était qu'une « république de bananes ». Nous devrions nous déclarer en faillite, nous séparer de l'Union et chercher de l'aide à l'étranger. Nous battons des records, celui de l'analphabétisme ou du nombre de mères célibataires, et dans le domaine de l'instruction, nous sommes les derniers. »
Ces remarques soulevèrent un tollé général, car elles ne respectaient pas, loin s'en fallait, la prudence habituelle du discours politique. Mais Kevin Reilly devint bientôt une sorte de héros, et cette déclaration eut probablement plus d'effet sur la politique de la Louisiane en matière d'éducation que toutes les manœuvres politiques qu'il avait tentées auparavant.
Vous pouvez même utiliser cette stratégie dans votre vie quotidienne. Nous nous laissons tous parfois embarquer dans des discussions qui s'enveniment d'elles-mêmes. Le point de départ de ces disputes peut n'avoir aucune importance véritable, mais nous laissons monter notre colère, nous nous entêtons à marquer des points, à prouver que nous avons raison. Quand c'est fini, nous nous demandons souvent comment nous avons pu nous laisser entraîner à de tels extrêmes. Mais tant que dure la discussion, nous ne nous posons aucune question. Repensez à des situations bloquées dans lesquelles vous vous êtes trouvé récemment. N'auriez-vous pas pu briser les schémas dans lesquels vous vous enfermiez, vous et vos interlocuteurs ?
Réfléchissez un moment et essayez de trouver 5 stratégies qui vous permettraient de sortir de telles situations. Réponds intelligemment, même quand on te traite inintelligemment. Lao Tzu, Tao Te King.
N'aimeriez-vous pas avoir une stratégie bien définie qui vous permettrait de briser les schémas, de court-circuiter toute dispute avant qu'il ne soit trop tard?
Je trouve que l'humour est bien utile dans ces cas-là.
Comment se laisser emporter par la colère alors que l'autre fait appel à votre humour?
Il y a une émission de télévision qui me fait beaucoup rire. Elle présente des sketchs au cours desquels les acteurs se font des choses horribles, comme de se frotter le visage au papier de verre et de s'arroser ensuite d'alcool, puis ils prononcent une petite phrase, toujours la même.
Je déteste ce qui est en train de m'arriver.
Nous sommes partis de cette émission, ma femme et moi, pour mettre au point une stratégie grâce à laquelle nous brisons les schémas qui risquent de nous conduire à une situation bloquée. Dès que l'un d'entre nous sent qu'une discussion prend un tour destructif, il dit
« Je déteste ce qui est en train de m'arriver. »
Et l'autre abandonne. Cela nous force à sortir de l'état négatif dans lequel nous nous étions plongés en pensant à quelque chose qui nous fait rire. Et cela nous rappelle aussi que nous détestons vraiment ce qui est en train d'arriver. Il est à peu près aussi intelligent de se laisser entraîner avec quelqu'un qu'on aime dans une discussion désagréable
que de se frotter le visage avec du papier de verre et de s'arroser ensuite d'alcool.
J'ai développé dans ce chapitre deux idées principales qui vont l'une comme l'autre à contre-courant de ce que l'on nous a souvent appris. Je crois tout d'abord que l'on convainc mieux sur un terrain d'entente que sur un champ de bataille. Nous vivons dans une société qui croit en la compétition, qui distingue les gagnants des perdants, comme si tous les rapports humains devaient aboutir au triomphe des uns et à la défaite des autres. Cela me rappelle une publicité pour des cigarettes qui disait
« J'aime mieux me battre que changer de marque »
et montrait un homme exhibant, fièrement, un œil au beurre noir, preuve de sa combativité.
Mais tout ce que j'ai appris sur la communication dément la valeur du modèle compétitif. J'ai déjà parlé de la magie de la sympathie et du rôle essentiel que cette dernière joue pour ceux qui veulent développer leur pouvoir personnel.
Si vous voyez dans votre interlocuteur un concurrent que vous devez vaincre, vous vous placez exactement à l'opposé de la sympathie. Ce que je sais de la communication me dit qu'il faut construire les rapports humains sur des bases de confiance et non de conflit, qu'il faut suivre pour mieux guider plutôt que d'affronter pour venir à bout des résistances. Cela est plus facile à dire qu'à faire. Cependant, grâce à une vigilance soutenue et consciente, vous pouvez transformer vos schémas de communication.
J'ai ensuite avancé dans ce chapitre que nos schémas de comportement ne sont pas indélébilement gravés dans notre cerveau.
Si nous restons dans une répétition qui nous limite, ce n'est pas parce que nous souffrons de quelque obscure maladie mentale, mais parce que nous nous référons toujours au même schéma catastrophique. Briser le schéma, arrêter de faire ce que l'on est en train de faire et essayer quelque chose d'autre, voilà la solution. Nous ne sommes pas des robots programmés par des souvenirs dont nous nous souvenons à peine. Si nous faisons quelque chose que nous n'aimons pas faire, nous n'avons qu'à en prendre conscience et changer. C'est ce que dit la Bible.
Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil.
Cela arrivera si nous le désirons.
Ces deux principes reposent sur l'idée de la souplesse. Si vous ne réussissez pas à reconstituer un puzzle, vous n'arriverez à rien en essayant de toujours placer la même pièce au même endroit. Vous n'en viendrez à bout qu'en vous montrant suffisamment souple pour essayer de créer de nouvelles solutions. Plus vous êtes souple, plus vous créez de nouvelles possibilités, plus vous ouvrez de portes et mieux vous réussirez.
Dans le chapitre suivant, nous allons étudier une autre façon d'atteindre cette souplesse personnelle.
Ouais, j'avais vu. Je
Chapitre 16.
Restructuration des schémas, le pouvoir de la perspective.
La vie n'est pas statique. Seul ne change jamais ceux qui sont enfermés, impuissants dans les asiles et ceux qui reposent dans les cimetières. Everett Dirksen.
Écoutez un bruit de pas.
Peut-être croyez-vous qu'il ne signifie rien pour vous. Pourtant, réfléchissez-y. Dans une rue très passante, au milieu de la foule, vous n'entendez qu'un brouhaha. Il y a trop de bruits de pas pour que vous les entendiez. Aucun ne signifie quoi que ce soit pour vous. Mais si un soir tard, alors que vous ne dormez pas encore, vous entendez un bruit de pas qui se rapproche de votre chambre. Que va-t-il se passer ?
Vous allez interpréter ce bruit. C'est un signal dont la signification dépend de votre expérience passée. Il peut vous rassurer ou vous inquiéter. Signifier, si vous l'attendez, que votre femme rentre, ou si vous avez déjà été cambriolé, que des voleurs se sont introduits chez vous.
La signification que nous donnons à tout ce qui nous arrive est déterminée par le schéma auquel nous nous référons à ce moment-là. En changeant ce schéma, vous changez immédiatement le sens de ce que vous vivez. Savoir plaquer sur chacune de vos expériences le meilleur schéma possible vous permettra de changer votre vie. Essayez maintenant de décrire sur un écran mental dans votre imagination la figure dont je vais vous parler. Qui voyez-vous ? Imaginez comme plusieurs pièces d'un puzzle, tout alignées, on dirait, sur une ligne horizontale imaginaire. Pour nous qui regardons ces pièces, certaines peuvent évoquer une flèche orientée vers le bas, d'autres, en forçant un peu l'imagination, peut-être un robinet, et d'autres encore, des pièces d'un pulse qui ne peuvent prendre leur vrai sens qu'assemblées aux autres pièces qui vont autour. Vous n'aurez bien entendu pas suffisamment d'informations par cette seule information orale, car il y aurait besoin d'un support visuel pour découvrir qu'en fait, dans cette pièce que je vous décris, si vous la regardez d'une certaine façon, eh bien vous pourriez y découvrir les trois lettres du mot « fly », ce mot étant imprimé en négatif, si je puis dire. Autrement dit, les lettres sont en creux et c'est l'espace autour qui est en plein. Verrez-vous encore dans ces signes inversés, un chapeau placé à la verticale, un monstre, une flèche?
Si vous aviez le schéma devant vous, vous auriez pu noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Auriez-vous vu aussi le mot « fly » ? Peut-être pas, car vous avez l'habitude de voir les mots écrits noir sur blanc. Mais maintenant que vous le savez, sans doute le verriez-vous si vous aviez changé votre schéma de perception, puisque « fly » est ici écrit en blanc. Il en va de même dans la vie. Nous ne voyons pas toujours les possibilités qui nous sont offertes et grâce auxquelles nous pouvons faire de notre vie exactement ce que nous voulons qu'elle soit.
Ce qui nous apparaît quelquefois comme un grave problème peut être vu comme une chance nouvelle, à condition que nous arrivions à sortir de nos schémas de perception habituels.
Comme je l'ai répété tout au long de ce livre, rien dans ce monde n'a de signification intrinsèque. Ce que nous ressentons face à quelque chose et ce que nous faisons alors dépendent de la perception que nous en avons. Un signal n'a de sens que dans le schéma ou le contexte dans lequel nous le percevons. Le malheur est un point de vue. Pour celui qui vend de l'aspirine, vos migraines sont un bienfait. Les êtres humains tendent à attacher un sens spécifique à chacune de leurs expériences selon ce qu'ils ont déjà vécu. Ceci qui m'est déjà arrivé signifie cela. Or, ceci peut généralement être interprété de bien d'autres façons. En changeant nos schémas habituels de perception, nous nous ouvrons de nouvelles possibilités. Nous ne devons jamais oublier que la perception est un processus créatif. Elle envoie au cerveau un message. Ceci est dangereux, par exemple. Le cerveau traite ensuite l'information reçue et crée un état dans lequel le message est devenu réalité. Si nous adoptons un autre schéma de référence, en regardant le même événement dans une perspective différente, nous réagirons différemment. Nous pouvons changer nos représentations ou perceptions et en un instant transformer ainsi notre état et notre comportement. Il suffit pour cela d'adopter de nouveaux schémas.
Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, car ce que sont les choses peut être interprété de bien des façons différentes. Ce que nous sommes, nous, nos schémas de référence, nos cartes, définissent le territoire. Regardez la figure A. Que voyez-vous ? Une vieille femme laide, bien sûr. Regardez maintenant la figure B. C'est à peu près la même vieille femme, le menton enfoncé dans le col de son manteau de fourrure. Examinez-la plus attentivement et essayez d'imaginer quel genre de femme elle est. Semble-t-elle triste ou heureuse ? À quoi croyez-vous qu'elle soit en train de penser ? Tout cela n'est pas inintéressant, mais il y a là autre chose, car c'est un portrait de sa fille, jeune et jolie, que l'artiste prétend avoir fait. En changeant votre schéma de référence, vous arriverez à voir cette belle jeune fille. Je vais vous y aider. Le tracé du nez devient celui du menton, et de la mâchoire inférieure, l'œil gauche se transforme en oreille. La bouche en collier. Vous ne voyez toujours pas la jeune fille ? Regardez la figure C.
Autrement dit, pour vous qui n'avez pas sous vos yeux les trois figures, vous avez compris que la figure centrale appelée figure B regroupe deux autres figures, dont l'une représente une femme qui semble plutôt vieille, et l'autre, une femme qui semble vraiment très jeune. Et dans la figure centrale, le graphisme est conçu de telle façon que suivant où vous le regardez, comment vous le regardez, eh bien, vous pouvez percevoir soit la figure de droite, c'est-à-dire la jeune fille, soit la figure de gauche, c'est-à-dire la femme âgée. Alors pourquoi avez-vous vu dans la figure B une vieille femme au lieu d'une belle jeune fille ? Eh bien, c'est parce que vous étiez conditionné en sens. Dans la mesure où je vous ai proposé de regarder, ou plutôt Marie-Hélène vous a proposé de regarder d'abord la figure A, c'est-à-dire celle de la femme âgée. Il m'arrive souvent de partager en deux les groupes qui suivent mes séminaires et de montrer aux uns la figure A, celle de la vieille femme, et aux autres la figure C, celle de la jeune fille. Puis, je les réunis et je leur présente la figure B. Évidemment, les deux groupes se mettent à discuter. Ceux qui ont vu A d'abord en premier voient dans B une vieille femme. Et ceux qui ont vu C, la figure de la jeune fille en premier, voient dans B une belle jeune fille.
C'est à travers nos expériences passées qu'est filtré ce que nous voyons de ce qui se passe réellement autour de nous. Mais il y a toujours diverses manières de voir les choses. Prenons l'exemple de ces gens qui font un véritable commerce des billets de concert. Ils en achètent en quantité et les revendent à des prix plus élevés devant les portes du théâtre. Vous pouvez penser qu'ils profitent des autres et trouver cela méprisable. Mais vous pouvez aussi vous dire qu'ils rendent service à ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place ou qui n'ont pas eu envie de faire la queue pendant des heures pour en avoir. Pour réussir, apprenez à vous donner de toutes vos expériences des représentations qui vous aideront à obtenir de meilleurs résultats pour vous et pour les autres.
Si tu vois le petit comme le petit se voit lui-même, si tu acceptes le faible pour la force qu'il a et utilises l'obscur pour la lumière qu'il donne, alors tout ira, c'est agir naturellement. Lao Tzu, Tao Te Ching.
La formation des schémas consiste, sous sa forme la plus simple, à énoncer de façon positive quelque chose que l'on envisage sous un angle négatif, en changeant le cadre de référence de notre perception. Cela peut se faire soit au niveau du contexte de la perception, soit au niveau de son contenu. Dans un cas comme dans l'autre, nous transformons notre représentation interne en annulant une douleur ou un problème, ce qui va nous permettre de mieux utiliser nos ressources personnelles.
La restructuration au niveau du contexte consiste à prendre conscience qu'une expérience désagréable peut se révéler dans un autre contexte comme quelque chose de bénéfique. La littérature enfantine est pleine d'exemples de ce genre. Le vilain petit canard souffrait d'être différent des autres. Mais ce n'était que parce qu'il devait devenir le plus beau des cygnes. Se rendre compte de l'avantage que présente, dans un autre contexte, ce qui apparaît comme un handicap est extrêmement utile en affaires. Reprenons l'exemple de celui de nos associés qui est un différenciateur. Un poids traîné jusqu'au moment où nous avons compris combien il pouvait nous aider en faisant ressortir les difficultés que nous rencontrerions dans nos projets.
Ceux qui innovent sont ceux qui savent voir ce qu'il y a à tirer de certaines situations dans un contexte différent. La présence de pétrole dans le sous-sol enlevait autrefois de sa valeur à la terre, car elle la rendait moins fertile.
Aujourd'hui, elle fait des millionnaires.
Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire dans les scieries de la sciure de bois qui s'y entassait. Un homme décida d'utiliser, dans un autre contexte, ce qui était considéré jusqu'alors comme un déchet. Encombrant. Il mit sous presse une préparation comprenant entre autres choses de la sciure et de la colle et inventa l'aggloméré.
Après avoir signé avec les scieries des contrats par lesquels ils s'engageaient à les débarrasser de leurs déchets, il monta une fabrique d'aggloméré et grâce à cette matière première qui ne lui coûtait rien, devint millionnaire en moins de 2 ans. Voilà en quoi réside le génie des affaires. Tirer des nouvelles richesses, de ressources données. En d'autres termes, restructurer les schémas existants. Chers amis qui nous avez suivis jusqu'ici sur Fréquence Bonheur, merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Nous arrivons, c'est vrai maintenant, au terme de cette 16e émission. Marie-Hélène et moi-même,
nous joignons pour vous renouveler cette excellente semaine, passée sans doute à restructurer un certain nombre de schémas, consciemment et inconsciemment. Et c'est sans doute un être nouveau que nous retrouverons la semaine prochaine lorsque nous vous adresserons à vous. Bonne semaine à tous, à bientôt.
Au revoir.